Vous écoutez
RMC.
Il n'a jamais voulu.
Ça va, pas lui.
Ça fait du bien, un peu de musique apaisante, cette ambiance anxiogène du moment. Les drôles de l'âme sont là. Simone Renvera était déjà avec nous tout à l'heure. Il est de retour. Simone, rebonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Polo Breitner nous rejoint. Salut Polo.
Ah, bonsoir mon cher Gilbert. Stuttgart, Bielefeld, duel de seconde division pour la tête. 54 000 personnes au stade. C'est juste parce que bientôt il n'y en aura plus. Donc voilà. Bonjour, bonsoir à tout le monde.
Fred Hermel également est avec nous depuis l'Espagne. Salut Fredo.
Madrid, les crèches vont être fermées, les écoles vont être fermées, les collèges vont être fermés, les lycées vont être fermés, les universités vont être fermées. Et on sent que les matchs ne vont pas forcément se dérouler devant beaucoup de public. Hola chicos, je fuis l'Espagne demain, je me réfugie en France les amis.
Ouais, en Espagne, le dernier truc qu'on ferme, c'est les stades de foot, de toute façon. Hein, donc ils peuvent tout fermer avant.
Mais là, on parle, je parle avec des gens là, pour le match Real Eibar de vendredi soir. À mon avis, ça va être du huis clos total, quoi. Donc, ouais, là, c'est la grosse crise à Madrid. Alors, 577 cas.
On va faire le tour des pays d'Europe. Et d'abord, accueillons Julien Laurent. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Alors, effectivement, point dans tous vos pays. Alors, on a eu Simone tout à l'heure, donc on sait tout de l'Italie d'ores et déjà.
Ouais. J'ai dit seulement une chose. J'avais dit que j'ai donné une stat erronée. C'est pas les 22%.
Oui, ça me paraissait beaucoup.
Des personnes en soins intensifs qui ont entre 19 et 50, c'est les 22% des personnes contagiées qui ont entre 19 et 50. Mais quand même, la chiffre sur les 10% des personnes en soins intensifs, c'est vrai, il y a des stats qui sont publiées quotidiennes par le gouvernement italien. Et okay. Il y a 733 personnes en soins intensifs, si je ne me trompe pas, sur 7985 cas.
En Italie.
Et 463 morts.
En Allemagne, Polo, alors, le match de Leipzig demain, joué avec le public. Et alors, il y a eu un truc, je le disais tout à l'heure, assez étonnant. On a reporté Strasbourg-PSG et on a joué à Fribourg, qui est juste de l'autre côté de la frontière, du Haut-Rhin, en plus.
Il n'y a même pas ça. Il y avait aussi le match entre Mönchengladbach et Dortmund. De toute façon, il y a de grosses polémiques en Allemagne sur les décisions prises.
Ouais.
Mönchengladbach-Dortmund, par exemple, il y avait des cas de coronavirus qui étaient justement dans cette zone géographique et on a continué à jouer le match. Alors, beaucoup de polémiques. La première, c'est que il semble, même si ce n'est pas encore officiel aujourd'hui, qu'on va interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes.
Comme en France.
Donc ça veut dire en gros, donc ça veut dire qu'en Allemagne, première, seconde, troisième division, on peut oublier que ça va être mis en place à partir de la semaine prochaine, donc le week-end prochain. Donc ça veut dire que Simone l'a vécu ce week-end en Italie. Ça veut dire que Dortmund-Schalke vide. Ça fait donc c'est le derby d'Allemagne. Ça fait quand même bizarre. Le autre chose qui risque d'arriver, c'est que les matchs de troisième division à très fort public, comme par exemple Magdebourg, Kaiserslautern, le week-end prochain risque d'être reporté. Il y avait déjà 20 000 places de vendues pour ce match de 3ème division. Et la troisième chose, ce sont les polémiques, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas que Leipzig soit joué avec le public et que par exemple un Dortmund ce soit un match à huis clos au PSG, mais on ne comprend pas aussi pourquoi on prend ces décisions dans le monde du football et quand et comment par exemple les 300 000 employés de Volkswagen continuent à être ensemble à la cantine le midi. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte.
C'est comme le métro à Paris,
exactement,
à Marseille ou à Lyon.
Et je ne parle même pas des conséquences économiques dont on est en train de chiffrer en ce moment. Parce qu'on parle toujours des gros clubs qui vont perdre, mais on oublie que c'est surtout important le stade pour la buvette, tout ce qu'on veut, pour les secondes et troisièmes divisions qui n'ont pas forcément les mêmes droits télé.
Ça, les recettes buvettes en Allemagne, c'est évidemment toujours important. En Espagne, donc Fred, on s'achemine vers des huis clos également.
Oui, parce que là, 1204 personnes contaminées sur le pays, dont 577 à Madrid. Et là, on va pas rentrer dans la polémique, mais il semblerait que le gouvernement ait attendu la fin de la journée de la famille hier, parce qu'il y avait plein de manifestations, et de prendre des mesures à partir du 9 et pas du 8. Ça peut paraître surréaliste, mais voilà, c'est ce qui se passe en Espagne en ce moment. Il fallait pas en empêcher les manifestations des féministes, et comme ce gouvernement est très féministe, le gouvernement socialo-podemos. Bref, l'Espagne là, depuis quelques heures, l'Espagne s'inquiète depuis quelques heures. Donc, comme je vous ai dit, toutes les écoles vont être fermées, les universités, etc. Et donc, déjà, et là, on peut commencer directement, si tu me permets, vers la Ligue des Champions, parce que à Valence, on parle quasiment que de ça. Parce que
alors, demain, Valence a été décrété à huis clos déjà il y a une semaine. Hein.
Voilà. Ouais. Mais Valence, sauf que depuis, il y a eu des histoires. Parce que demain soir, vous le savez, Valence reçoit l'Atalanta Bergame. Valence a pris 4-1 à l'aller et rêve d'une remontada. Alors, Mestalla, c'est magnifique, mais quand il y a 45 000 personnes ou 50 000 personnes dedans, ouais. Il n'y aura personne demain. Même les journalistes ne sont pas autorisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conférence de presse aujourd'hui, il n'y en aura pas demain, et les journalistes ne pourront pas rentrer. Seuls peuvent rentrer les gens des équipes et les techniciens nécessaires pour la retransmission.
Vraisemblablement, il
n'y
aura pas de conférence de presse ici à Paris non plus demain, PSG Dortmund. Hein. Voilà. À confirmer, je vais encore conditionnel, mais enfin, c'est la tendance.
Donc, vont rentrer les techniciens pour permettre la retransmission télé du match. Voilà, simplement. Et il se trouve qu'il y a un petit. Là aussi, pas une petite, une grosse polémique ici en Espagne, surtout du côté de Valence, puisque hier, Dani Parejo, le capitaine de cette équipe de Valence, a fait un post sur les réseaux sociaux assez violent en disant qu'il ne comprenait pas les critères qui étaient utilisés et le fait qu'il y avait un décalage énorme entre le fait que. Au moment où on ferme le stade de Valence, il y a les Fallas. Les Fallas, c'est des grosses fêtes, espèce de carnaval où il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont dans la rue, qui boivent des coups, qui sont collés l'un aux autres. Il y a des gens qui viennent de partout, dont d'Italie, pour faire la fête. Et donc, au moment où on va fermer le stade, et ben dans les rues, il y aura plein de gens collés les uns contre les autres en train de faire la fête. Et ce carnaval-là qui dure sur plusieurs jours, et je peux vous dire que c'est vraiment les uns sur les autres, et ben il n'est pas annulé. Donc voilà, on est là aussi, comme disait Polo, pour l'Allemagne, dans plein de polémique, quoi. Mais voilà, l'ambiance ici en Espagne n'est pas terrible, terrible à ce sujet-là.
En Angleterre, qu'est-ce qui se passe, Julien ?
Alors nous, on a 320, je crois, personnes de cas de coronavirus. On a eu 5 morts, 5e mort aujourd'hui. Mais pour l'instant, les Anglais maintiennent tout comme d'habitude. On ferme rien du tout, il n'y a pas de match à huis clos. Même si bizarrement en Irlande, par exemple, le match de rugby lors du tournoi de destination avait été repoussé. Mais niveau football, on a encore eu tout à l'heure le responsable, le chef de la sécurité médicale, on va dire, pour le gouvernement, qui a dit, mais vous savez, si vous avez une personne dans un stade de 70 000 qui a le coronavirus, il va pas non plus infecter tout le monde. Donc, visiblement, ici, pour l'instant, on panique pas. Tout ce que les gens font, c'est qu'ils stockent des pâtes, ils stockent du riz, ils stockent du papier toilette.
Ah ben, on espère pareil.
C'est tout ce qu'ils font. Mais le papier toilette, ici, c'est incroyable, quoi. Tout le monde achète.
Pourquoi ils achètent tous le papier toilette, les Anglais? C'est quoi le délire?
Je comprends pas, mais moi, je leur demande, mais je dis pourquoi le papier toilette, quoi? Le sopalin, ils le laissent, ils prennent que le PQ. Je sais pas pourquoi.
C'est drôle, parce que je comprends pas.
Alors, ça, c'est incroyable.
Le sopalin, c'est un peu plus dur. C'est pour ça.
Ah non, ça dépend, ça dépend de la marque.
Ah, parce que t'as des risques, parce que tu prends la chair. C'est pour ça.
Non, mais ils te répondent quoi, là, les mecs, à qui tu demandes pourquoi vous achetez du papier toilette?
Il prend du sopalin pourri.
Bah, il faut, et c'est par précaution. Il faut prévoir, au cas où.
C'est quoi l'équivalent du Moltenel en Angleterre?
Ça n'existe pas.
C'est. Si, c'est comment ça Andrews ou un truc comme ça. Ouais. C'est pas. C'est, non, mais on a du papier toilette de très bonne qualité ici.
Les marques de papier toilette, c'est la première fois.
Le débat, c'est
élève. Si je peux plus en envoyer, qu'on les teste, parce que comme ça, on citera d'autres marques.
Moi, en tout cas, les amis, je comprends pas tout, parce que c'est pas mon domaine. Mais pendant que vous parlez, je suis en train de lire un article du Quotidien du Médecin, écrit par des gens qui visiblement comprennent. Et je peux vous le dire. On est en train de balancer une tonne de conneries. Donc, le mieux, c'est soit on parle d'autre chose sur.
On parle des conséquences,
là,
on parle pas du
conneries. C'est du factuel de ce qui se passe en Espagne, en Angleterre, en Italie.
Je pense que vous rigolez de conneries. Parce que je pense que rigoler comme on le fait conduit à penser qu'il y a une grosse exagération de tout ce qui est en train de se passer.
Personne a dit ça.
Mais j'ai pas dit que tu le dis. J'ai dit que ça peut donner à penser.
Gilbert le fasse. Je ne t'accuse pas.
Ouais. Mais quand tu lis des trucs de vrais spécialistes, il y a des choses qui sont quand même. Et Dieu sait que je comprends pas tout ce que je lis, mais néanmoins. Pardon, on entend depuis des semaines dire que la grippe saisonnière tue plus. C'est une énorme connerie, par exemple. Une énorme connerie. De le dire et de le penser.
On a entendu des médecins le dire sur FM TV.
Je vais te transférer cet article-là.
C'est pas notre sujet, on n'est pas les spécialistes santé.
On parle des conséquences de ce qui se passe.
Et la base sera de ne pas prendre à la légère les instructions qui seront données parce que.
Personne n'a dit ça.
Non, on les prend pas à la légère. Non,
mais c'est, déjà, Daniel, on n'arrive pas à comprendre la non-homogénéité décisionnelle. Mais
déjà,
c'est,
ouais.
ça qui, c'est ça les débats.
Peut-être qu'en fait, justement, nous, on comprend pas, mais il y a des gens qui comprennent et qui vaut mieux écouter.
Bon, d'accord.
Ouais. Mais alors, moi, simplement, je me suis jamais trouvé dans une situation comme ça. C'est comme une guerre. En Italie, on fait les comparaisons avec la guerre. Plusieurs ministres, plusieurs personnes, plusieurs mairies des villes, on fait des comparaisons comme ça. Je vous dis une chose, en Lombardie, qui c'est la meilleure. Pour moi, région italienne, à niveau de la santé, dans les dernières 9 jours, ça a augmenté de 700% les gens qui ont besoin de soins intensifs. Tu ne peux pas prévoir ça. Donc,
Et en fait, l'un des problèmes, c'est effectivement l'éventuel afflux qu'il pourrait y avoir auprès du personnel de santé. Et c'est ce débordement-là qu'on craint, surtout pour... et c'est pour ça qu'on met en quarantaine ou qu'on isole les gens.
Dans quelques instants, on va reparler terrain. Simplement, les gars,
pour en conclure, parce que c'est par rapport à ce que disait Julien, le Real Madrid aimerait bien que le match sur la pelouse de Manchester City se joue à huis clos. Voilà, je te le dis, ça va sortir.
Ouais, mais effectivement, c'est ce que les clubs anglais s'attendent effectivement à ce qu'il y ait quelques demandes en Ligue des Champions. Ce qui les intéresse aussi, plus sérieusement, c'est que s'il y a des matchs à huis clos en Angleterre, ils ont commencé déjà à poser la question à l'UEFA. Et qu'est-ce qu'on fait pour le fair play financier? Parce que les 5 millions d'euros de manque à gagner quand le match sera à huis clos contre le Real Madrid, par exemple, qu'est-ce qu'on va en faire quand on va révéler les comptes la saison prochaine et qu'on va regarder si on est bien à l'équilibre, etc., ouais. etc. Et ça aussi, ça va être un gros problème, surtout dans les championnats où il y aura plus de matchs à huis clos qu'il ne pourrait y avoir en Angleterre.
Mais la Juve va perdre 12 millions. Environ.
Et on a le PSG estime à 10 millions.
À la rigueur, c'est pas les gros clubs qui vont être touchés. C'est impacté, c'est les clubs de seconde et troisième division.
On parle de terrain dans quelques instants, les gars. Ligue des champions, championnat, bien sûr, parce que malgré tout, pour l'instant, à part en Italie, donc désormais, ça continue. Il faut quand même qu'on parle aussi de la Juve, hein, qui a gagné hier face à l'Inter. Le terrain revient dans la sorte dans quelques instants avec les Drôles de Dames, bien sûr. Je rappelle que Lens a donc battu Orléans 1-0 ce soir en Ligue 2. À tout de suite.
RMC 21h30, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Bretagne, Daniel Riolo, Frédéric Verdier avec nous ce soir. Je tiens à préciser que lors du PSG Metz, du but de Jérôme Bretagne, Metz était dernier de première division. On a vérifié. et c'était bien samedi soir. Donc Jérôme, merci.
Je t'avais dit dans les premiers. J'ai pris
il nous dit qu'il était troisième. Ah, mais il est fort quand même. Par contre, quel est mytho.
Dire que Marchez est un des meilleurs gardiens de la Ligue 1, c'est la vérité.
Marchez d'ailleurs avait intégré l'équipe de France peu après.
Oui, mais ouais,
c'était sans doute le meilleur.
Non, il n'a jamais été pris, mais sache qu'il était sur la
shortlist.
Sur la shortlist. Dans les 50. C'était un très bon gardien.
Absolument.
Excellent.
Alors, les gars, on va reparler un petit peu terrain.
Personne n'aurait pu choper cette frappe. Hein.
Déjà. Merci, Daniel.
Apoula Edel, selon ce que tu as dit tout à l'heure, on aurait pu l'attraper, vu qu'il était apparemment très fort.
Il aurait pleuré, mais non.
L'endroit, en fait, t'aurais gâché ton but parce qu'il aurait dévié dans le but. Donc, il aurait touché, ce qui rend moins beau le but.
Lionel Letizy, pareil.
Parlons Ligue des Champions, les gars.
Le projecteur aura pu le gêner.
S'il vous plaît, le temps passe. On a encore une heure avec vous, hein, les Drôles de Dames. Vous en faites pas, on pourra parler de tout, hein, messieurs. S'il faut qu'on ait jusqu'à 23h35, on le fera avec vous pour ne rien rater parce qu'il y a plein d'actu. Ligue des Champions, Leipzig demain. Polo, donne-nous les dernières infos.
Bon, les dernières infos, c'est qu'évidemment Nagelsmann a fait une conférence de presse très motivante pour ses joueurs, en faisant comprendre que celui qui ne serait pas à 200% demain pour battre Tottenham n'avait rien d'un footballeur professionnel et n'avait en gros pas sa place sur le terrain. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut le mettre en parallèle avec le match de ce week-end, donc le 0-0 à Wolfsburg, qui fut très compliqué, notamment en première mi-temps contre les Loups de Wolfsburg. Ce qui est sûr aussi, c'est que autant on retrouve une stabilité défensive qu'on avait déjà vue contre Tottenham, qu'on avait vue contre le Bayern, mais par contre, offensivement, ça commence à coincer du côté de Leipzig parce qu'il demande énormément d'efforts et il fait relativement peu de turnover devant et on se rend compte que les joueurs commencent à tirer la langue de tout simplement les cadres devant qu'il met à chaque fois. C'est plus fatigant. Forsberg n'est plus à son meilleur niveau lorsqu'il joue. Nkunku, à force de jouer tous les matchs, on voit que ça devient moins facile pour lui. Timo Werner était sur le banc parce qu'il est un peu touché. Donc c'est un match que Leipzig veut absolument gagner. Maintenant, dans quel état on va retrouver cette équipe, on verra. Je pense qu'il y aura à peu près deux changements par rapport au match qu'on a vu ce week-end à Wolfsburg.
À Tottenham, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on y croit après la défaite 1-0 à l'aller?
Alors, on y croit forcément, en tout cas en façade. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau blessé pour José Mourinho. C'est Steven Bergwijn, l'ailier néerlandais qui s'est fait une grosse entorse de la cheville samedi à Burnley. Donc, en plus d'Harry Kane et en plus de
Heung-min Son.
Tout à fait, qui avait été très bon depuis son arrivée du PSV au mois de janvier. En plus, tu perds Bergwijn, qui est un gros coup dur aussi. Et c'est vrai que même si Mourinho y croit encore beaucoup, ça va quand même être compliqué offensivement. Alors après, si on parle de Tottenham, il faut forcément parler de l'altercation de nouveau entre Ndombele et Mourinho samedi après le match, où encore une fois Mourinho a déchiré, mais alors déchiré comme, mais à la télévision anglaise déjà dans son interview d'après match, et il en a remis une couche lors de la conférence de presse pour tout le monde, médias, écrits, radio, télé, tout ce que vous voulez, où il s'est encore une fois tapé Ndombele. Alors le problème que j'ai avec ça, c'est que Mourinho sur le fond a raison. La première période, puisque Ndombele est sorti à la pause, la première période Ndombele avec ballon, elle est, on va dire, quasiment parfait. C'est-à-dire qu'il a jamais, il a quasiment jamais perdu le ballon. À chaque fois qu'il a le ballon, techniquement, c'est quand même largement au-dessus du reste. Le gros problème, c'est sans ballon. C'est-à-dire qu'il ne fait aucun effort. Par exemple, et ça, pour moi, c'est une statistique, qui est incongrue, mais impardonnable aussi, c'est que dans ses 45 premières minutes, Ndombele a fait zéro sprint. Et dans un match de ce niveau-là,
ça en première ligue, c'est hallucinant.
Comment c'est possible qu'un joueur professionnel aujourd'hui, un international français, Daniel, un mec qui t'a coûté 65 millions d'euros, ne fasse zéro sprint? Mais c'est pas possible.
À Lyon, il en faisait bien des sprints.
À Lyon,
je sais pas s'il en faisait beaucoup à Lyon, mais en tout cas là, c'est ridicule.
La première ligue, et je t'assure que il a pas été bon à tous les matchs. Il y avait des périodes, il traversait le milieu de terrain, on le voyait pas.
Non, non, mais vous avez raison. Et puis. Après, il faut dire qu'à Lyon, il a quand même fait une belle saison, mais il est pas parti par hasard comme ça à Tottenham. Mais moi, je l'ai vu.
Tu sais, les mecs qui réussissent pas tout de suite, à qui il faut un an ou deux pour tout comprendre.
Non, mais
surtout quand tu changes de championnat, ça arrive.
En fait, il y a plein de problèmes. C'est que certainement la relation, comme le dit Julien, avec Mourinho, elle est compliquée. C'était compliqué pour lui déjà en arrivant, même sous Pochettino, et que là, t'as l'impression qu'en fait il a oublié tout son football. Du moins moi je l'ai vu jouer contre Leipzig, vraiment il est rentré, en fait il a oublié son intelligence de jeu. Et j'ai pas l'impression de voir
le même. Que c'était sa principale qualité.
Oui, mais à Lyon. Ouais. Ah, non, mais.
De toute façon, on le verra pas demain. Donc,
non, mais là, il prenait la balle. Non, mais il prenait la balle, il driblait, il
après,
rentrait
non.
dans
moi,
son
moi, ce qui me gêne, c'est quand un entraîneur comme Mourinho sulfate un joueur comme ça, publiquement.
C'est la grosse critique, c'est ça. C'est quand public.
C'est une grosse ficelle, ça devient vraiment une corde à nœud maintenant. On sent qu'il maîtrise pas tout non plus. Je trouve ça un peu commode à chaque fois de se dédouaner sur. Aujourd'hui, c'est Ndombele. Avant, c'était encore d'autres joueurs. Ça peut être aussi
Pogba,
physique,
Luke Shaw,
le médecin. Voilà.
C'est pas la première
fois.
Voilà,
c'est pas la première fois, mais ça devient un petit peu un système, je trouve.
Dans quelques instants, vous saurez tout de Valence à Atalanta et les matchs de mercredi, plus évidemment le débrief des championnats dans quelques instants. Jérôme nous laisse.
À bientôt.
Ton programme de la semaine, rapidos, Jérôme. Tu fais quoi en Ligue des Champions cette semaine?
Mais je suis avec vous.
Non, mais mercredi, t'es au parc.
Oui, au parc,
c'est tout.
Mais ce soir, t'es là,
hein, de quoi?
T'es physiquement à la radio demain?
Demain soir, je suis là, j'ai annulé mon déplacement à Leipzig. Je laisse Polo y aller.
Oh, pardon? Je suis content.
Non. Allez, à tout de suite avec les Brodelames. Merci Jérôme, on te retrouve demain soir dans l'after, bien sûr. À tout de suite.
RMC. C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Frédéric Verdier est là et Julien Cazard arrive. Voilà, il va faire son entrée, tel un joueur de Ligue des Champions, un peu en retard, toujours un peu 30 secondes en retard, mais bel et bien présent. Julien, qui arrive dans quelques instants. Les Drôles de l'âme également, bien sûr, jusqu'à minuit. On reparlera Ligue 1 un petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant, on se concentre, bien sûr, sur les championnats européens et la Ligue des Champions. Donnez-nous les dernières infos. Il est là. Julien, monsieur Cazard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir, mon cher Julien.
Ça va, mon Fredo?
Ah, ben ça va. Normal.
Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une toux grasse?
Mais t'es arrivé trop tard, c'est parce que l'Espagne, ça y est, c'est là.
T'es complètement fou, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Comment tu peux dire qu'est-ce qui arrive?
Totalement déraisonnable.
Le Real a perdu contre le Betis.
Oh là là.
Un match horrible.
Oh là là.
Zidane a dit qu'il expliquait même pas la défaite. C'est
Zidane.
Zidane n'a pas de mots.
Ouais.
Mais Zidane, il a.
Comment veux-tu que Fred se sente?
Je pense que Daniel a bien résumé. C'est ce que j'allais dire dans mon intervention sur le Real. Après, il y a deux, trois petites infos, notamment sur
Ariola. Tu as pris pour ça, toi?
Non, je suis l'Espagne, je rentre en France, j'arrive demain.
Ah ben t'as raison, c'est le bon moment.
Alors de semaine c'est pire. T'as le double début de l'émission là, ça y est. 577 cas de coronavirus, virus, de Vinicius, de coronavirus.
Vinicius,
n'importe. De Corodrigo, ouais.
N'importe quoi. Mais comment tu vas faire mercredi, toi? Tu peux pas aller au match, mon coco?
Vous m'emmerdez. Moi je rentre, je n'ai rien à foutre.
Je rentre. Alors, tu sais quoi? On m'avait dit que je rentrerais pas à PSG Quevilly. Je suis rentré.
C'est vrai, j'en étais témoin.
Moi, je rentrerai dans ce putain de parc et je serai pas tout seul. Et quoi, elle est où, Maracine et Anou? Elle est où, les ronds de cuir, là? Ils sont où? Je vais rentrer, tu m'entends? Je vais rentrer dans le stade. Et tu m'empêcheras pas, hein, allô, t'as avec ton bonnet de bain, là.
Tu as Benedetto?
Piscine, là. Mais non, Maracine et Anou.
Je crois que tu parlais de Benedetto.
C'est pas une, un poisson rouge qui va m'empêcher d'entrer dans un stade, moi. Écoute-moi bien, allez où?
Bon, s'il te plaît. Atalanta, Valence. Enfin, Valence, Atalanta,
dans un vocal.
Les dernières infos, Fred, de Valence.
Outre les informations que je vous ai données tout à l'heure sur le fait que Palero se plaignait qu'on fasse la fête dans les rues alors qu'on puisse pas aller dans le stade, Valence y croit à moitié, sincèrement. Alors pour eux, leur seul espoir, c'est de regarder quelques sorties mémorables de l'Atalanta en Ligue des Champions à l'extérieur, et que c'est une équipe qui a pris beaucoup de buts. Après, il y a quand même une absence importante. Maxi Gomez, qui est blessé, il s'est cassé un orteil il y a une semaine contre le Betis. Bon, vu tout ce qu'il avait manqué au match aller il y a 3 semaines, c'est pas forcément une grosse perte. Mais bon, il y a quand même le retour de Rodrigo Moreno, qui n'était pas là au match aller, qui va accompagner le français Kevin Gamero. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sinon, derrière, c'est toujours la catastrophe entre le fait que le meilleur défenseur Paulista, Gabriel Paulista, est suspendu, que Mangala s'est de nouveau blessé et qu'il sera incertain jusqu'à la dernière minute. Il est fort possible que Francisco Klein joue défenseur central. Voilà. Donc on peut pas dire que cette équipe de Valence soit dans un état extraordinaire, mais il y a de quoi offensivement quand même. Voilà, il y aura du Guedes, il y aura du Palero, il y aura du Ferran Torres. Voilà, on va miser à fond sur du côté de Valence sur l'attaque. Et puis, ben si l'Atalanta met des buts, ben tant pis quoi. Mais en tout cas, ils vont jouer leur chance, ça c'est sûr. Et ils espèrent. Et j'insiste là-dessus que parfois les sorties de route à l'extérieur de l'Atalanta qui a, et là l'ami, mon grand ami, je veux dire, Simone Rover va confirmer que voilà, c'est les résultats notamment au tout début de cette Ligue des Champions qui laisse un petit espoir à Valence.
Ils avaient pris 4-0 à Zagreb et 5-1 à City, ouais.
Donc voilà. Ça, c'est deux résultats qui suffisent. Ben, 4-1, 3-0 suffit. Donc, ils espèrent ça, ils y croient. Hein. Après, sincèrement, moi, je vous dis, la remontada, c'était avec Mestalla. Là, il n'y a pas Mestalla. Quoi. Donc,
Alors, Simone, qu'est-ce qu'on dit en Italie?
Bah, déjà que l'Atalanta n'a pas joué ce week-end. Donc, les derniers matchs, ça reste sa victoire 7-2 de Lecce. Les grosses infos de composition, c'est la blessure de Toloi, défenseur central brésilien, qui est une des piliers de cette équipe. Ça devrait être Caldar qui est arrivé cet hiver en retour de Milan, qui va être titulaire. Il y a une question, un peu en interrogation sur l'attaque. Est-ce que Gasperini va faire jouer Duvan Zapata devant, ou va choisir en composition avec un milieu en plus, que ça devrait être Pazalic, et donc avec Iličić en 9, Gomez en 10 et Pazalic au milieu de terrain, ou il y a aussi l'option de jouer avec Muriel titulaire, c'est-à-dire avec un joueur un peu plus de contre pour profiter des espaces qu'il y aura sûrement. L'Atalanta a quand même marqué au moins trois fois peut-être cette saison 7 buts, et sûrement 2 fois à l'extérieur, donc face à Torino, face à Lecce. Donc c'est une équipe qui, en Ligue des Champions, oui, a encaissé beaucoup de buts, mais après les débuts compliqués, ils ont commencé même à en émettre beaucoup à l'extérieur, mais surtout en Serie A.
Info qui vient de tomber. Le ministère de la Santé espagnol vient de confirmer qu'à partir de la prochaine journée, donc ce week-end jusqu'au 4 avril, les matchs de la première et la deuxième division espagnole se joueront tous à huis clos.
Bon, voilà, comme en France. Voilà, ça tombe de tous les côtés maintenant. On a l'impression que les gouvernements européens ont l'air de s'accorder plus ou moins sur les histoires de huis clos et la conduite à tenir.
Fred, rassure-moi, oui. On peut toujours prendre le métro en Espagne.
Oui, pour l'instant.
Ça
oui.
Va.
Non, c'est comme en France.
En France,
c'est
voilà. Non, mais ça me rassure, parce que là, au moins, on risque rien. Je sais que dans le métro, on risque rien. C'est un endroit confiné, avec l'air recyclé, et on est tous les uns sur les autres. Là, on risque rien. C'est la journée de sûr. Alors,
stade ouvert.
Ah, ça, par contre. Polo, parlons maintenant du Borussia Dortmund, à 48 heures du match. Quelle est la forme du Borussia? Ils ont gagné ce week-end. Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir?
on ne parle que du Borussia Dortmund en Allemagne, mais je suis encore désolé de décevoir la France et la Navarre, mais ce n'est pas par rapport au match du PSG qui est intégré dans un calendrier qui doit amener le Borussia Dortmund à revenir à un point du Bayern Munich lors de la 28e journée, qui sera le duel évidemment contre le Bayern Munich, c'est-à-dire que l'Allemagne se focalise complètement.
À un point et qu'entre-temps ils sont sortis au parc.
Tout va bien.
Mais en fait, oui, c'est pas ça. C'est
qu'en fait, vous êtes champion d'Allemagne, hein.
Ouais, si nous, ça nous dérange pas. Comme l'a dit Mats Hummel, si on perd 7-6 à Paris, c'est pas bien grave. Mais en fait, c'est assez intéressant comment cette rencontre retour est complètement occultée. Et je voudrais juste vous parler d'une émission, je vous en parle quelques fois. C'est cette émission d'Opel Pass, là, qui est de 11h à 13h et présentée par Thomas Elmer, donc l'ancien champion d'Europe 96 en Allemagne. Il y a eu 45 minutes sur le Borussia Dortmund. Ensuite, il y a eu 48 secondes sur le match PSG Dortmund où Thomas Elmer a essayé de lancer le débat en disant alors le Racing, ils ont pas joué au PSG, c'est pas déplacé au Racing. Ça a fait un beat complet, ils sont passés aux ultras directement. C'est-à-dire que c'est pour essayer de montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a en Allemagne par rapport à cette rencontre.
Autant nous on s'intéresse à Borussia, autant en Allemagne ils s'en foutent du PSG quoi en gros.
C'est pas qu'ils s'en foutent si tu veux, mais c'est pas ça. C'est compris dans un calendrier qui est très compliqué pour le Borussia Dortmund, parce qu'il y avait évidemment cette victoire au Mönchengladbach qui a beaucoup marqué les esprits, non pas qu'on a eu un Dortmund merveilleux, mais surtout que c'était un Borussia Dortmund très combatif avec 7 cartons jaunes quand même de distribuer, ce qui était l'un des défauts de ce Borussia Dortmund. Et surtout on se dit alors là il y a le PSG, ensuite il y a Schalke, ensuite il y a Wolfsburg et puis il y a le Bayern, donc encore une fois on se focalise sur le championnat et non pas sur la Ligue des Champions, ce qui est me semble intéressant culturellement parlant. La deuxième chose,
Polo, dis-toi un truc, si le Borussia Dortmund avait 12 points d'avance sur le deuxième, peut-être qu'il s'intéresserait un peu plus au match du PSG.
Mais je dis pas qu'ils s'intéressent pas au match du PSG. Je dis que dans cet objectif, le PSG n'est pas médiatiquement parlant, en tout cas, considéré. Évidemment, demain, ils vont en parler. Mercredi, le jour du match, ils vont en parler. Mais ça ne correspond pas à quelque chose qui, entre guillemets, soit fait peur, ou s'ils sont éliminés, ou s'ils se qualifient. C'est la façon dont ils vont jouer contre le PSG.
De se faire éliminer, c'est pas qu'ils se foutent
de se faire éliminer. Ne transformez pas ce que je dis. C'est que ça fait partie d'un calendrier qui doit amener le Borussia Dortmund, considéré aujourd'hui comme le co-vainqueur possible du championnat avec le Bayern Munich. Ce qui est plus embêtant, c'est la conférence de presse de Lucien Favre, qui a d'un côté rassuré sur l'état de forme de Thorgan Hazard, qui a eu des crampes, qui a été forcé de sortir, et surtout, du coup, qui a été reçu par Hollande dans la rencontre. Et en fait, Lucien Favre a fait comprendre qu'évidemment, il serait titulaire pour mercredi, mais qu'à 19 ans, le championnat autrichien, en gros, c'est pas tout à fait le même niveau que le championnat allemand. Et comme il joue quasiment tous les matchs, le Norvégien, si tu veux, il commence aussi à tirer la langue, ce qui sera, je pense, un critère très important pour le match de mercredi. Important aussi la titularisation de Julian Brandt et la mise au repos de Sancho, qui avait été malade en milieu de semaine. La logique, évidemment, veut que Sancho soit titulaire contre PSG. Donc on devrait avoir l'équipe type. De toute façon, il n'a pas un grand banc, il a 12 joueurs, puisqu'il n'utilise quasiment plus Mario Götze ni Modaoud, et quand Akanji a perdu sa place, évidemment. Donc voilà, on en est là en Allemagne à ce niveau-là.
Dis-moi juste, Simonet, tu sais que le match de Youth League, on l'a dit tout à l'heure, donc Inter Milan, Rennes, l'Inter a déclaré forfait, donc Rennes est qualifié d'office pour les quarts. Oui. Mais il y a l'équipe de Youth League qui est actuellement à Florence, de Lyon.
Qui doit jouer face à Atalanta.
Mais du coup, ce match n'aura pas lieu.
On n'a pas encore d'informations sur ça. Et demain, le décret va être publié sur la Gazette officielle. Donc demain matin, va être rendu officiel. On n'a pas d'informations concernant cette hypothèse. Et aujourd'hui, on n'a même pas d'informations concernant Juve Lyon. Donc attention, parce que...
On ne peut pas avoir un décret. Enfin, le Premier ministre qui arrive ce soir en disant tout est suspendu, et puis demain, que la Youth League se joue. Ce serait quand même incroyable.
Ben, c'est soir, pendant que le ministre disait ça, il y avait un match de Serie B qui s'est joué. Donc le comité olympique avait demandé d'arrêter toute compétition juste avant le coup d'envoi du match en retard de la Serie A. Je pense pas qu'ils vont jouer ça. L'Inter a montré un peu la voie en disant avec tous les respects pour la Youth League, si on doit s'arrêter pour la sécurité de tous, on s'arrête, on donne forfait. Je crois qu'il ne sait pas les soucis de ce match. Par contre, par Juve Lyon, par Juve OL, je me pose un peu plus de questions, parce qu'évidemment, pour moi, c'est impossible que ça se joue en Italie.
Oui, effectivement.
En disant ça. Mais pour ce que sont mes informations ce soir, la Juve jusqu'à à quand on ne sera pas publié les décrets officiellement sur sur la Gazette officielle. Donc à partir de demain matin, elle ne prendra pas en considération des choses différentes.
Julien, le derby de Manchester, il faut que tu nous racontes parce que là, c'est la renaissance de United.
C'est la renaissance de United, effectivement.
Manchester
troisième
is
victoire.
Red, comme disent
les... Solskjaer en a pris pour 2-3 ans, là, maintenant.
Il est inamovible.
Mais, mais il faut...
Le mois de mars, c'est son coup tactique.
Il gagne le derby.
Exactement.
Et le regard derrière pour regarder Ferguson dans la tribune et tout, inamovible. C'est terminé. Il est intouchable.
Non, mais on l'a critiqué quand il a fait des erreurs, et il en a fait cette saison, tactiquement, dans sa communication aussi. On l'a critiqué, et là, quand il a tout bon, bah, effectivement, il faut lui rendre...
Après, il a 2-3 joueurs de meilleur niveau dans l'équipe quand même, hein.
Bien sûr, quand t'as Martial dans cette forme-là,
on peut quand même parler de la bonne recrue qui est arrivée là.
Bien sûr, et quand t'as Bruno Fernandez dans cette forme-là, qui s'est adapté sans aucun problème. On a parlé tout à l'heure de l'adaptation de Ndombele, par exemple. Bruno Fernandez, lui, il n'y a eu aucun souci d'adaptation. Il est arrivé et il s'est imposé tout de suite comme le patron de cette équipe. Et c'est vrai que dimanche, ils ont tout eu bon dans l'attitude, dans le plan tactique, dans les choix de tactique aussi en termes de schéma de Ole Gunnar Solskjaer. Et puis ils ont aussi aidé par le fait qu'Ederson a fait deux erreurs, mais ça peut arriver, et que Guardiola, lui, selon moi en tout cas, est passé complètement à côté de son match. Comment Riyad Mahrez ne peut pas débuter cette rencontre, ça reste un mystère. Comment Zinchenko peut passer son temps en deuxième milieu défensif, qui a complètement perturbé la défense de Manchester City, j'ai aussi du mal à le comprendre. Mais c'est vrai qu'il faut rendre hommage à Solskjaer et à United qui ont fait un match parfait dans une ambiance assez fantastique. Et donc, comme je disais tout à l'heure, pour la troisième fois, battre Manchester City dans la même saison, puisqu'ils les ont battus à l'extérieur en championnat et aussi à l'extérieur en Coupe de la Ligue. C'est la septième défaite pour Manchester City en championnat cette saison, donc la septième de Pep Guardiola. C'est plus qu'Arsenal, et c'est aussi plus que n'importe quelle autre saison dans la carrière de Pep Guardiola comme entraîneur. C'est-à-dire que jamais dans sa vie il n'avait perdu autant en championnat dans une saison, et la saison n'est pas encore terminée déjà.
Il a pas un peu lâché aussi... là, il mise pas tout sur la Ligue des Champions là un peu avant de se barrer.
Franchement, non, là, je sais pas si c'est juste fou, ça. Hein. Je sais pas, mais s'ils jouent comme hier contre le Real, ils peuvent aussi passer à la trappe en Ligue des Champions, même si le Real a pas été non plus très bon au Betis. Mais
ah non.
Je sais pas, c'est assez bizarre. C'était un vrai non-match en première période. En première période, ils ont 77% de possession, je crois. Ils ont un tir cadré.
Ouais,
il se passait rien offensivement,
La position de Guardiola, hein, quand il n'a pas tous les joueurs exactement qui sont au meilleur niveau, en tout cas ceux qu'il a voulu ou ceux qu'il arrive à utiliser, c'est même 73% de possession sur le match entier, je crois, hein, sur
ouais,
le côté
fait,
City.
Ouais. 73. Et très peu d'occasions.
Voilà.
Mais De Bruyne n'était pas là non plus.
Avec 717 passes qu'a fait Manchester City pour, je crois que c'est 100 de moins pour United. Donc à un moment donné, quand c'est juste des passes latérales, ça a vraiment ses limites, quoi. On l'a vu hier.
Et l'autre bonne nouvelle, juste pour finir, c'est que Paul Pogba a repris l'entraînement collectif, qui devrait rejouer très bientôt, et que tout le monde ici en Angleterre, et surtout les supporters de United, s'attendent à trouver Bruno Fernandes et Pogba ensemble. Et c'est vrai que ça peut faire très mal pour United si les deux arrivent à jouer ensemble.
Pierre-Alain est avec nous au 32-16, il est supporter de United. Pierre-Alain, bonsoir.
Bonsoir à tous.
T'es d'accord, Solskjaer, ça y est, là, il est reparti pour 2 ans de crédit.
Alors 2 ans de crédit, j'irai pas jusque là. Moi, j'aimerais bien qu'on le change pour Allegri en fin de saison, mais c'est super content du. Je vous avais vu en début de saison, j'étais très inquiet parce que il n'y avait pas eu beaucoup de transferts à la maison, et là, depuis Bruno Fernandez, on retrouve quand même du jeu. Et justement, Julien vient de répondre à la question que je voulais lui poser par rapport à l'association Pogba-Fernandez, savoir ce qu'ils s'en disaient en Angleterre, parce que moi c'est quelque chose qui me fait envie. C'est quand je vois Fernandez jouer, il prend ses responsabilités sur le but de Martial, c'est absolument génial. Donc voilà, savoir ce qu'il lui il en pensait.
Effectivement, c'est un grand débat ici aussi sur
prendre sa responsabilité.
Oui, c'est une
expression commune. Mais regarde,
ou un péno.
Mais tu prends tes responsabilités, c'est parce que tu dis à l'autre, casse-toi, c'est moi qui tiens.
C'est ça. Donc, tu platinis avec Henri Michel.
Donc tu prends la responsabilité de.
Voilà, c'est ça. Quoi.
Et si c'est pas un coup franc.
Neymar avec Cavani, après c'est la responsabilité.
Non, mais d'accord. Je parle par rapport à tout, par rapport au. Enfin, il vient d'arriver dans un grand club quand même. Le mec, il sort du Sporting. Il arrive. J'ai du respect pour le Sporting Portugal, attention. Mais.
Le dernier qui a fait ça, c'est Ronaldo, ça a bien marché.
Bah ouais, c'était plutôt pas mal. Et du coup, voilà, les, quand tu le vois dans le centre du jeu, après je suis d'accord par rapport à Manchester City. Voilà, il y avait pas De Bruyne, Ederson a fait un match de merde. Voilà, il y a plein de choses, mais voilà, il prend le jeu à son compte, c'est vraiment un joueur que enfin voilà, que moi j'aime voir jouer. Et associé à Pogba, ça pourrait être génial de voir les deux ensemble.
C'est vrai, il faudra jouer juste la bonne formule. Ouais, il faudra juste trouver la bonne formule. Et c'est aussi le débat qui s'est installé depuis les très bons matchs de Bruno Fernandes et le retour de Pogba à l'entraînement. Est-ce que tu les fais jouer, par exemple, avec le jeune McTominay, lui en sentinelle derrière, qui rassure, ou même Matic, qui a signé d'ailleurs un nouveau contrat d'un an, mais qui a été très bon encore hier contre City. Ou alors, est-ce que tu fais jouer Fred? Est-ce que tu fais jouer Bruno un petit peu plus haut et Pogba derrière dans un milieu en losange, par exemple, qui pourrait très bien marcher? Et puis deux pointes qui sont Rashford et Martial quand Rashford reviendra de blessure. Et c'est vrai que Rashford, Martial devant, Bruno en numéro 10, après un milieu à 3, McTominay ou Matic, Fred et Pogba. Si tout le monde joue le jeu, si tout le monde est collectif, si tout le monde met du mouvement et de l'intensité, ça peut quand même être pas mal.
Merci Pierre-Alain, en tout cas, bonne soirée.
Merci. Salut. À vous, passez une excellente soirée.
Salut. Je change de championnat. Voilà pour Manchester, où à United tout va bien. En revanche, mon petit Fredo, voilà. Au Real, ça va pas.
Ah bah franchement, hier j'ai vu le pire match du Real cette saison. Je pense que c'était encore pire que le match à Majorque. Et là, je pense qu'on peut être un petit peu inquiet. Parce que Zidane n'avait pas d'explication. Zidane était mais effondré après cette rencontre, parce que allez, vous gagnez contre le Barça, rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a une semaine, on n'est pas rassuré pour le Real pour autant, parce que le Barça est très faible, rappelez-vous, je disais ça, hein, que voilà, c'était la défaite du, c'était pas que la victoire du Real ce classico, c'était aussi dans une partie conséquente la défaite du Barça. Ce qui est incroyable, c'est que les types ont eu ils gagnent contre le Barça, donc ils ont un point d'avance, ils ont le goal average favorable, ils ont une semaine tranquille puisqu'il n'y avait pas de coupe et il n'y avait pas de Ligue des Champions pour eux, ils ont deux jours de repos, ils peuvent préparer le match tranquillement jusqu'au dimanche et ils marchent sur le terrain, mais on avait l'impression qu'ils n'en avaient rien à foutre, une apathie incroyable. C'est pas fini. Le Betis marque, le Betis qui est vraiment pas bien en plus, hein, sincèrement. Le Betis marque. Le Real se procure un penalty transformé par Benzema à la mi-temps. Tu te dis, bon, ils vont se dire au repos, Zidane va gueuler un peu, va leur dire, ouais, attendez, on a fait un premier mi-temps de merde, on est quand même à égalité, allez, on pousse un petit peu et on gagne ce match. Le pire, pour moi, c'est pas la manière dont ils ont débuté la rencontre, c'est la manière avec laquelle ils sont revenus des vestiaires. Et cette défaite, elle est justifiée. Je dis que face à un Betis qui n'était pas terrible du tout. La passe que fait Benzema, passe manquée qui provoque le contre et la victoire du Betis avec ce but de Théo, c'est incroyable. Enfin, qu'un gars du niveau de Benzema fasse ça. Il n'y a pas un joueur pour attraper l'autre. Peut-être Varane. Peut-être Varane et Courtois, même si
Benzema, c'est bien fait allumer aussi, hein.
Benzema.
Ouais.
Mais c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est ce que je viens de dire à l'instant.
Varane, oui. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il traversait une phase difficile avant. Hein.
Oui, cette saison, non. Il a eu deux matchs pas terribles, mais sinon il fait une saison exceptionnelle.
Oui.
Il a eu deux matchs pas terribles.
Il sortait d'une passe un peu dure, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il soit.
Mais là, il faut dire qu'avec sa vitesse, il a quand même évité pas mal de contres du Betis. Mais ce Real là est dans un état. Je vous dis, c'est incompréhensible. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que Zidane n'avait pas d'explication.
Donc là, il a pas d'explication. Ils vont se faire tenter la Ligue des Champions. Fred Hermel va devenir végétarien.
Tout va bien.
Une semaine. Hein.
Mauvais karma.
Une semaine.
Végétarien pendant un mois.
Non, une semaine, j'ai dit. Mais après, avec le coronavirus, tout ça, peut-être que mon médecin me recommandera de manger de la viande. Hein. Ça, on verra bien. Il y a une information importante par rapport au match à Manchester United qui est dans une grosse semaine, hein, Julien.
C'est City, a priori.
Manchester City,
je veux dire. Courtois, a priori, il ne sera pas là. Qui est quand même l'un des meilleurs joueurs du Real cette saison. Bien sûr, ça serait heureux là. Puisque Courtois est sorti en boitillant hier, il a un problème à un adducteur.
Aïe.
Voilà, c'est un peu compliqué.
Aïe, 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 a
Et là, le héros s'appelle Alphonse Areola, qui est les dernières minutes.
Mais on l'a tellement rêvé, pour... cette phrase. On l'a dit 15 000
mais
fois.
Ouais, mais oui, vas-y, mais c'est con. Ça n'arrive pas chez toi.
Ouais.
Et ça va arriver chez moi, pas chez toi.
Et on disait, et Choupo-Moting aussi.
Et ouais,
mais
t'as
pas ça, toi.
Mais c'est sérieusement. Et en plus, moi, je vous dis, là, les critiques sur Zidane, je parle pas des critiques dans la presse qui sont normales. Vous savez, quand on habite dans un pays depuis très longtemps et qu'on est un correspondant, il faut savoir lire, entendre la voix de ceux qui parlent comme journaliste. Et ben là, j'ai entendu le journaliste et c'était la voix de Florentino Pérez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des critiques sur Zidane au club. C'est-à-dire que.
Une élimination de Ligue des Champions et pas de titre de champion et un changement d'entraîneur.
Mais non, mais attends. Élimination Ligue des Champions.
De Javier Clemente.
Attends, mais Daniel, je vais te dire. Élimination Ligue des Champions, pas de titre de champion, mais c'est Zidane qui est le premier à partir.
Ah,
donc bien entendu qu'il y a un changement d'entraîneur. Ça c'est évident. Là, c'est...
Il a toujours envie de venir à Turin.
Ah bah tu sais, il ira à Turin.
Il y aura un jour, bien sûr, il y aura un jour.
Ou Bordeaux, parce que c'est un de ses
parce que Maurizio Sarri, je ne le vois pas rester longtemps, même s'il y a rien
à faire.
Alors après, l'information qui est sortie dans la presse anglaise que Zidane était tenté par Turin parce que Turin lui offrait 8 millions d'euros, c'est totalement ridicule. Il doit gagner à peu près ça au Real. Puis de toute façon, c'est pas un homme d'argent.
Ça veut dire, il a bien.
Mais qu'un jour Zidane soit entraîneur de la Juve, bah oui, c'est de toute façon Zidane, il peut pas être entraîneur de beaucoup de clubs. Moi, je pense qu'il a la Juve, le Bayern et l'équipe de France et tout. À part ça, il n'y a pas grand club qui pourrait accueillir Zidane.
Le Bayern, mais pourquoi le Bayern?
Parce que je pense que c'est un club qui, dans sa philosophie, dans sa manière d'être, pourrait lui convenir.
Tu le prends, Polo?
Mais tu sais qu'au fond, au Bayern, il faudrait regarder de près, Polo. Je dis peut-être une bêtise, tu vas me corriger immédiatement.
Encore?
Mais j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que finalement, ils n'aiment pas les entraîneurs étrangers.
C'est faux, ça, mais c'est complètement faux. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs étrangers. Le problème, c'est qu'il y a des pays qui ne réussissent pas bien.
La France n'est jamais d'entraîneur français.
L'Italie,
par exemple, en Allemagne.
Anthony, Van Gaal.
Mais il est critique à mort, il les aime pas.
Mais Van Gaal, c'est pas qu'il les aime pas, il faut qu'il parle allemand. Il faut qu'il parle allemand.
Aimé, là-bas.
Oui, déjà, là, il y a la barrière de la langue qui est très compliquée.
Franchement, il
parlait allemand couramment, hein, si vous
vous souvenez. Même si il est maltraité, non, il y en a pas beaucoup qui ont laissé des
traces. Non, mais déjà, il y a des pays.
Sans parler de Valérien Ismaël, un scandale.
Déjà, il y a des pays.
Dis-moi où j'ai dit une connerie, parce que là, vraiment.
Non, mais déjà, il y a des pays qui ont des soucis à réussir en Allemagne, et je pense que c'est culturel. Les entraîneurs italiens, par exemple, réussissent relativement peu en Bundesliga.
Les Espagnols, Guardiola, on parle
Les Espagnols, Guardiola, ça a très bien marché, sauf que comme il n'a pas gagné la Ligue des Champions, évidemment, il s'est fait tomber dessus, mais c'est catastrophique.
Non, mais il était souvent critiqué, tu le critiquais souvent toi-même.
Les Hollandais, ils ont mis 5-0 sur deux matchs contre Ancelotti et Gloria.
Oui, mais il y a ça.
Mais Polo, sincèrement, moi, je dis ça, j'ai jamais parlé du Bayern avec Zidane, mais maintenant, je le connais pas mal. Je pense que c'est la structure du club, la philosophie du club, je pense que ça pourrait l'intéresser, ça pourrait lui convenir.
Ouais, mais il y a chose, Fred. Quand Guardiola, c'est-à-dire que je suppose que derrière Zidane, il traîne beaucoup de sponsors. On est d'accord ou pas que ça traîne?
Non,
ce que je veux dire, ça traîne énormément d'aura et de personnes qui sont intéressées, qui pourraient venir au Bayern parce que Zidane vient.
Ah oui, c'est pas dire au niveau des corps.
C'est ce qui s'est passé quand Guardiola, et c'est quelque chose qu'on a relativement peu parlé, lorsque Guardiola est arrivé au Bayern, il y a eu un nombre incalculable de sponsors nationaux et internationaux qui voulaient venir filer de l'oseille au Bayern parce que Guardiola était là. Et évidemment, on dit Flick n'a pas le même aura. Donc, et si un mec comme Zidane vient là-bas, c'est même pas que pour le projet de jeu, c'est ce que Romain Dieu, qui s'est aussi très bien calculé, le comprend, ça. Maintenant, encore une fois, Hansi Flick est celui qui réussit aujourd'hui le mieux, à part Pep Guardiola, au bout de 13 journées, au bout de 13 matchs de championnat. Et n'oublions pas qu'il est très bien avec certains joueurs du club en ce moment de l'effectif. Et c'est certains joueurs de ce club allemand sont dans des agences où il y a d'autres joueurs qui aimeraient bien venir au Bayern Munich. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si Flick reste, eh ben, il est possible que certains joueurs allemands internationaux débarquent au Bayern parce qu'Andy Flick s'entend bien avec les mêmes mecs qui ont la même agence.
Ah, c'est peut-être autre chose qu'un intérimaire, finalement, Andy Flick, alors.
Pardon?
Tout ça pour dire quoi? C'est pour simplement pour terminer, mis. Gilbert.
On conclut, les gars, vas-y.
Non, mais là-dessus, pour dire quoi? C'est que Zidane va, de toute façon, il est évident, parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions sur les réseaux sociaux, que Zidane va pas se faire virer avant la fin de la saison. Parce que là, c'est Florentino Pérez, il se met en première ligne et c'est pas possible. N'oubliez pas que le Real est un club politique. Hein, puis il y a les élections les prochaines, c'est comme le Barça. Mais c'est évident que si Zidane ne gagne pas un titre, bah lui-même il aura envie de partir. J'en suis persuadé.
Et vous vous rappelez de Nevio Scala?
Top les gars, on n'a plus le temps.
Oui.
On vous retrouve toute la semaine. avec la Ligue des Champions.
Liverpool-Atlético.
Ah oui, un mot, on est obligé.
Liverpool-Atlético, les champions d'Europe en titre.
On le fera demain, c'est la première fois.
Contre l'équipe qui est en train de faire exploser le champion en titre.
On le fera demain, promis. Vous serez là dans l'after. Bonne nuit à tous. Un train allemand qui s'appelle Flick, alors que nous, le patron des flics s'appelle l'Allemand. Je ne sais pas s'il y a un lien.
Oui, à Paris.
C'est le magnifique. Simonet,
oui, il y a un article qui vient de sortir sur le site de la Gazette dello Sport qui parle d'une possible dérogation pour les matchs internationaux. Donc,
l'occurrence,
qui sera publié demain matin. Voilà.
Très bien. Plus d'infos demain. Merci, les gars.
Dans quelques instants, tous moins, c'est vrai.
On est de retour avec Julien Cazard, avec Survivor, avec encore des infos Ligue 1 et avec le quiz, bien sûr. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.